journal d'Alexis Morel. Bonjour Alexis.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ils étaient prêts à faire campagne, mais ce ne sont pas leurs visages qui orneront les affiches des législatives. Parole ce matin aux sacrifiés de l'Union de la Gauche, socialistes, écologistes, communistes. Ils doivent céder leur place après l'accord avec la France Insoumise. Au PS, le Conseil National se prononce ce soir et ce ne sera pas une formalité, bien au contraire. Au passage, la majorité aimerait bien récupérer quelques déçus et dissidents. L'Élysée suit cela de très près, espérant des prises à gauche, comme à droite, avant les élections. On en parle aussi avec votre invité à 8h20, Jérôme.
Oui, avec le président du parti Les Républicains, Christian Jacob, invité du grand entretien de la matinale. Comment regarde-t-il cette coalition à gauche? Comment résister aux sirènes de La République En Marche? Auditeur d'Inter, vous questionnez Christian Jacob dès maintenant au 01 45 24 7000. Le standard est ouvert.
Dans ce journal aussi, l'Irlande du Nord aux urnes. Les nationalistes pourraient l'emporter, ce serait une première. Les 30 ans de la catastrophe de Furiani, deux victimes témoignent dans ce journal. Les ratés de la transition écologique, beaucoup de panneaux solaires, mais pas assez de branchements sur le réseau. Et enfin, si les abeilles butinent, c'est grâce à la dopamine. Des chercheurs français ont percé le mystère.
France Inter.
Le Parti Socialiste, tel qu'on le connaît, survivra-t-il à cette journée? C'est bien tout l'enjeu du Conseil National convoqué pour 19h. 300 cadres du PS vont se prononcer sur l'accord passé hier avec la France Insoumise pour les législatives. Et on sera à coup sûr loin de l'unanimité, car au-delà du fond du programme, la répartition des circonscriptions avec les Insoumis fait de nombreux déçus au PS, mais aussi au Parti Communiste et chez les écologistes. Élodie Forêt, les victimes collatérales se comptent par dizaines.
Se retirer sans contester, c'est le choix de Catherine David, candidate préinvestie par Europe Écologie Les Verts, sacrifiée sur l'autel de l'accord.
Pas d'état d'âme, je comprends parfaitement. L'objectif, c'est d'avoir un groupe à l'Assemblée, donc très favorable à cette union et à cet accord.
D'autres sont moins philosophes, préinvestis en Seine-Saint-Denis. Najat Mabchour dénonce une décision verticale.
J'étais d'accord pour l'accord, c'est un accord qui soit construit avec les gens du terrain. C'est pas un accord qui nous tombe du haut.
Et envisage la dissidence. Même chose pour la communiste Michèle Picard dans le Rhône, lancée dans la bataille depuis juin.
Je connais les habitants, je connais les salariés, les entreprises.
Elle n'accepte pas le candidat imposé par les Insoumis.
Ça ne tient pas compte d'une réalité de terrain et d'un élu de terrain qui connaît le territoire.
Michèle Picard maintient donc sa candidature. Côté socialiste, un cas particulier suscite la tension, celui de Lamia El Arrache, députée éphémère de Paris, écartée au profit de l'insoumise Danielle Simonet. Malgré sa victoire lors de la dernière législative partielle, injustice dénonce ses proches. Un cadre du PS soupire. Un accord, ça fait toujours des dégâts.
Oui, mais certains ne veulent pas pour autant le cautionner côté socialiste. Bernard Cazeneuve a claqué la porte dès hier quand Jean-Marc Ayrault lui dénonce le prix exorbitant payé par le PS. La Fédération parisienne du PS s'apprête-t-elle à voter contre cette alliance? Pendant ce temps, sur la rive opposée, la Macronie suit de très près la révolte des éléphants. Le président prend tout son temps, on l'aura compris cette fois, pour préparer les législatives et former son nouveau gouvernement, pas avant la mi-mai. Et à La République En Marche, Maxence Lambrecq, on guette maintenant le moindre signe de ralliement.
Merci cher Bernard Cazeneuve, vous honorez la politique au sens noble. Quelle lucidité et fidélité à la gauche républicaine, l'honneur d'un homme d'État. Les députés de la majorité n'arrêtent pas d'encenser l'ancien Premier ministre sur les réseaux sociaux. Certains rêvent de son retour place Beauvau au ministère de l'Intérieur. Ce serait un coup génial, s'enthousiasme l'aile gauche. Prenons pas nos rêves pour des réalités, tempère une conseillère de l'exécutif. Il n'est pas suffisamment flexible pour nous rejoindre. D'autres, plus jeunes, paraissent plus accessibles. Les maires de Rennes, Nantes, Nancy, Clermont soutiennent l'accord. Celui de Montpellier s'y oppose. Michael Delafosse est donc source d'attention. Le président ne va pas recycler l'ancienne génération, listons au parti. Et si les investitures tardent, c'est aussi parce qu'Emmanuel Macron hésite à épargner ce qu'il appelle les socialistes modérés. Jean-Louis Bricou, Cécile Untermeyer, Hervé Solignac, l'ancien ministre Guillaume Garot, ces députés pourraient n'avoir aucun candidat de la majorité face à eux. Valérie Rabault, qui dit avoir refusé Matignon, serait sortie de cette liste. La phase de décantation se poursuit, s'amuse un habitué de l'Élysée.
Maxence Lambrecq, et en attendant le prochain gouvernement, nous passons en revue toute la semaine dans ce journal de 8 heures les grands chantiers économiques et sociaux promis par Emmanuel Macron pour son deuxième quinquennat. Ce matin, le droit opposable à la garde d'enfants.
Nul ne devrait renoncer à son travail parce qu'il a décidé de fonder une famille. Et nul ne devrait être en quelque sorte freiné parce qu'il n'y a pas de solution de garde évidente. C'est pourquoi pour tous les enfants de moins de 3 ans, nous allons mettre en place un droit opposable à la garde d'enfants.
Voilà une mesure déjà promise en 2007 par le candidat Sarkozy et qu'Emmanuel Macron remet donc sur la table, car d'après lui, 20% des parents n'ont pas de solution d'accueil pour leurs enfants. Alors Raphaël Delvolvé, que changerait ce nouveau droit ?
Eh bien, tout parent bénéficierait d'une offre d'accueil proposée par sa commune, soit une place dans une crèche publique ou privée, chez une assistante maternelle ou bien la mise en relation avec une nounou. En cas d'impossibilité, le candidat Macron a promis une indemnisation versée aux parents. Outre la création de 200 000 places d'accueil supplémentaires, ce nouveau droit implique également une réforme administrative. L'universitaire Julien Damon a co-signé le rapport gouvernemental préconisant la création de ce droit opposable à la garde d'enfants.
Il faudrait que les villes aient désormais une compétence obligatoire et les moyens afférents qui leur seraient transmis par l'État et en lien avec les CAF afin d'organiser ce service public de la petite enfance.
Autre chantier crucial, la formation des professionnels de l'enfance. On manque d'assistantes maternelles et leur service est particulièrement convoité par les parents aux emplois du temps compliqués. Marie-Andrée Blanc est présidente de l'Union nationale des associations familiales.
Dans les 10 ans à venir, 50% des assistants maternels vont partir à la retraite et il n'y a pas la relève. Et puis évidemment, rentre en ligne de compte le critère rémunération.
Le droit opposable à la garde d'enfants existe ailleurs en Europe. En Allemagne, il a permis de doubler le taux d'accueil des jeunes enfants entre 2006 et 2018. Tenir cette promesse aura un coût élevé. Pour le moment, aucun financement n'a été communiqué.
Et demain, la suite et la fin de notre série avec le compte épargne-temps universel.
Les Russes tiendront-ils parole à Marioupol ?
Moscou promet un cessez-le-feu de 3 jours dans la Syrie Azovstal. Il est censé avoir débuté il y a 1 heure maintenant. Un couloir humanitaire sera ouvert jusqu'à samedi, assure le ministère russe de la Défense. Plus au nord, toujours en Ukraine, c'est dans le Donbass que se concentre l'essentiel de l'offensive. Et pour les habitants de cette région, le quotidien devient de plus en plus précaire, notamment pour se nourrir. Farida Noir, notre envoyé spécial, se trouve tout près de la ligne de front à Lysychansk, où la maison municipale de la culture s'est transformée en centre de distribution alimentaire.
Encore deux par là.
Sacha se presse dehors, de nombreuses personnes attendent pour pouvoir récupérer un colis avec de quoi boire, de quoi manger, car les magasins de la ville sont pratiquement tous fermés et il n'y a plus d'eau, le réseau a été détruit.
Ça, c'est la distribution urgente pour les enfants. Entrez, je vais vous montrer. Des couches pour bébés, des produits alimentaires, hygiéniques.
Irina, jeune bénévole, prépare de grands sacs blancs, dedans des kits bébés pour les mamans. Elle en entasse plusieurs.
Parfois, il y a des gens qui arrivent et qui redistribuent.
C'est justement ce que vient faire Lilia.
Je viens de Novodroujesk et je vais amener des colis à Berezové. J'organise tout, je les collecte et je mets tout dans la voiture. Et ensuite, on partage avec les gens. On prend des risques, mais comment faire autrement ? Je pense que c'est mon devoir. Chaque matin, on se réveille, on s'organise avec les voitures, tire ou pas tire. Mais les stocks s'amenuisent vite et le centre manque de tout.
C'est catastrophique, il manque des médicaments, on aimerait plus de produits et des produits de meilleure qualité.
Car même si des milliers d'habitants ont déjà fui, il reste 20 000 personnes à nourrir et à soigner qui ne veulent pas quitter Lysychansk et ses alentours, alors que les Russes sont à quelques kilomètres.
Farida Noir et Fabien Gosset dans le Donbass pour Inter. Moscou et la menace nucléaire, énième épisode. Ce matin, l'armée russe affirme avoir simulé cette nuit des tirs de missiles à capacité nucléaire dans son enclave de Kaliningrad. Une centaine de militaires auraient participé à ces exercices. Depuis le début de ce conflit en Ukraine, Boris Johnson est plutôt actif, multipliant condamnations et promesses de soutien aux Ukrainiens, ce qu'il a provisoirement préservé de ses soucis domestiques. Ça ne va peut-être pas durer pour le Premier ministre britannique. Élection locale aujourd'hui au Royaume-Uni et la sanction pourrait bien être nationale pour les conservateurs au pouvoir, notamment après le scandale des fêtes organisées à Downing Street pendant les confinements. Mais c'est surtout vers l'Irlande du Nord que les yeux sont tournés. Les nationalistes du Sinn Féin, prônant la réunification de toute l'Irlande et donc la sortie du Royaume-Uni, sont en tête des sondages. Leur victoire serait un séisme politique, Richard Place.
La lutte armée est terminée. Le Sinn Féin, d'abord vitrine officielle de l'IRA, est devenu un parti politique à part entière. Ce mouvement de gauche prend même ses distances avec ses racines catholiques quand il s'agit d'aborder la question de l'avortement. Les plus jeunes sont particulièrement séduits, les intentions de vote sont massives chez les moins de 35 ans. Une victoire signifierait automatiquement un poste de Premier ministre du jamais vu pour les nationalistes. Et ça ne passe pas chez leurs opposants les plus farouches, les plus anciens, notamment ceux qui se souviennent des attentats, des morts. On peut voir des affiches dans Belfast où l'IRA et le Sinn Féin sont comparés au groupe État islamique.
« À Je pense qu'aucun unioniste ou prétendu tel ne devrait travailler avec un Premier ministre du Sinn Féin. Peu importe qu'il soit majoritaire.
C'est aussi la position du principal parti unioniste au pouvoir jusqu'ici. Car la Constitution impose une coalition entre nationalistes et loyalistes. Quand l'un est Premier ministre, l'autre obtient le poste de Premier ministre adjoint, dont les pouvoirs sont équivalents. Les pro-Royaume-Uni s'en accommodaient tant qu'ils gagnaient les élections. Pas cette fois si le Sinn Féin l'emporte. Ils refusent de collaborer avec un mouvement qui annonce un référendum sur la réunification irlandaise dans les 5 à 10 ans qui viennent. Londres, Richard Place, France Inter.
8h11, c'est une commune de la banlieue de Bastia, mais depuis 30 ans, c'est surtout le nom d'une catastrophe.
Furiani, un avant-après pour le foot français. 19 morts, 2300 blessés le 5 mai 1992 dans l'effondrement d'une tribune du stade Bastiais. En ce 30e anniversaire du drame, Jérôme Val a rencontré en Corse deux victimes qui, aujourd'hui encore, peinent à s'en remettre.
Karine Grimaldi se souvient encore des moindres détails de cette soirée qui allait bouleverser sa vie et cette chute vertigineuse dans un fracas assourdissant.
Quand je suis tombée, cette aspiration, le choc au sol, ce bruit, ce brouhaha, ce monde qui criait, tout ça, il suffit d'aller quelque part où il y a beaucoup de monde. De suite, je me sens oppressée. Tout ce qui est tubulure, tout ce qui est fer va me faire sursauter.
Karine, 18 ans à l'époque, a perdu sa sœur cadette décédée dans la chute. Elle fera 3 ans et demi de rééducation. Devenue tétraplégique après l'accident, elle est depuis clouée dans un fauteuil roulant.
Je vis au jour le jour, je dirais. J'aurais préféré vivre une autre vie, c'est sûr. Mais j'avais besoin, en fin de compte, de relever ce défi. Il fallait que je m'en sorte. Pour mes parents, pour ma sœur qui n'était plus là, il fallait que je me batte.
Cette date du 5 mai est également un cauchemar pour Paul Calassi.
Cette nuit, je n'ai pas dormi. Et j'arrivais pas à trouver le sommeil, quoi. Il y a tout ce stress, cette angoisse.
Lui aussi se trouvait tout en haut de la tribune provisoire qui a cédé. Amputé d'une jambe, il est à 73 ans, prisonnier dans son lit, dans sa vaste maison de Poggio d'Oletta, à l'est de Bastia.
J'ai perdu 30 kilos quand même. Je n'arrivais plus à m'alimenter. Il y a toute la famille autour aussi qui doit supporter les conséquences de cette catastrophe.
Paul Calassi assure avoir en lui toujours autant de haine et de colère. Karine Grimaldi, de son côté, n'est jamais retournée au stade de Furiani depuis 30 ans, cet endroit, dit-elle, où j'ai tout perdu.
Jérôme Val, c'est lors d'un match contre l'OM que cette tribune s'était effondrée. Un hommage sera donc rendu ce soir à Marseille aux victimes de Furiani, juste avant le coup d'envoi du match de Ligue Europa Conférence entre l'OM et le Feyenoord Rotterdam. Deux gardes à vue en cours pour soupçon de féminicide dans les Yvelines d'abord. C'est un homme de 27 ans qui est entendu après la découverte du corps de sa compagne avant-hier. Quelques jours seulement avant les faits, son conjoint avait déjà été interpellé pour violence conjugale avant d'être remis en liberté. Et puis à Gratentour, près de Toulouse, un trentenaire a appelé lui-même les gendarmes dans la nuit de mardi à mercredi pour leur dire qu'il avait tiré sur sa femme et mère de ses deux enfants.
Miser sur les énergies renouvelables, c'est bien, mais encore faut-il que l'intendant suive.
Oui, la guerre en Ukraine nous a rappelé l'urgence de moins dépendre des énergies fossiles. Certains misent donc sur le photovoltaïque en forte progression en France. 500 000 particuliers et entreprises ont déjà installé leurs propres panneaux solaires. Mais parfois, au risque de la surchauffe, le réseau électrique n'est pas toujours dimensionné pour les accueillir. Les ratés de la transition énergétique, exemple en Charente avec Martin Delacou.
Romain Ferrand élève des cochons à Ébréon, entre Angoulême et Niort. Il voulait s'agrandir et avait trouvé la solution, financer la construction d'une nouvelle installation pour ses bêtes grâce à des panneaux photovoltaïques, pas de nuages à l'horizon, jusqu'à ce qu'il apprenne qu'il était impossible de se raccorder au réseau pour le moment.
C'est des grosses démarches en amont avec le permis de construire. On apprend ça, donc là, oui, ça met un petit coup derrière la tête. Oui.
Trop de fermes et d'entreprises ont eu la même idée. Le réseau est donc saturé dans le département en de nombreux endroits. Les explications de Marie Guérin. Elle est ingénieure chez Eurocap New Energy qui développe 4 projets en Charente.
Il y a une différence de vitesse entre le développement des énergies renouvelables et l'adaptement du réseau et des postes sources pour acheminer l'électricité. Souvent, il faut faire preuve de patience pour que nos projets soient adaptés à ces aménagements.
RTE et Enedis, les entreprises qui gèrent le réseau, assurent que le problème reste marginal et que cela ne remet pas en question la transition énergétique. Des solutions sont également possibles. Les 4 projets de l'entreprise de Marie Guérin sont ainsi dans une même communauté de communes, ce qui permet d'aller chercher un point de raccordement plus éloigné et de financer les coûts plus facilement.
Et puis, qu'est-ce qui motive les abeilles à sortir de leur ruche pour c'est chercher du pollen? Les scientifiques se sont longtemps posé la question, et nous aussi, à ces travailleuses acharnées. Eh bien, des chercheurs français et chinois ont un début de réponse. Leur étude paraît dans la revue Science. Ils ont observé des abeilles butineuses et découvert dans leur cerveau un mécanisme similaire au nôtre, la libération de dopamine. La dopamine, l'hormone du plaisir, essentielle dans la motivation, chez les abeilles aussi, Sophie Becherel.
La dopamine est une substance qui permet aux neurones de communiquer. Elle est liée à la motivation quand on est à la recherche de plaisir ou d'une récompense. Chez l'abeille, c'est la première fois qu'on associe la libération de dopamine dans le cerveau avec la recherche de nourriture. Martin Jurfa est professeur de neurosciences au CNRS à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
Ce que nous avons vu, c'est que les abeilles qui sortent en quête de nourriture, les butineuses, montrent donc une suractivation de leur système dopaminergique de façon similaire à ce qui est observé chez nous. Et non seulement ça, c'est que quand elles arrivent à la nourriture, à la source de nourriture, et qu'elles commencent à consommer cette nourriture, donc cette augmentation diminue, disparaît.
Mais quand les abeilles vont retourner à la ruche et danser pour communiquer à leurs congénères l'endroit où se trouve le festin, à nouveau, le niveau de dopamine grimpe.
Notre interprétation, c'est qu'il y a une sorte de réminiscence de ce qu'elles ont vécu à la source alimentaire et que c'est ça qui active ce système d'appétence au cours de la danse.
À la différence de l'homme, où la dopamine n'est libérée que pour la motivation personnelle, chez l'abeille, l'envie de nourriture bénéficie aussi à la colonie. Les butineuses sont en effet celles qui, par la nourriture apportée, permettent de fabriquer le miel dans la ruche.
Eh bien voilà, quand vous mangerez du miel, vous saurez désormais que ça procure du plaisir aux abeilles.
Voilà, ça fait donc deux bonnes raisons. Mais non, il n'y a pas de raison de culpabiliser. Deux bonnes raisons, une de plus en tout cas, de consommer du miel. Merci à vous, Alexis Morel. La météo, Stéphanie Fromentin.
La météo, avec Air France. Cet été, ciel dégagé vers plus de 1000 destinations pour partir en toute sérénité avec Air France. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Stéphanie, un ciel gris et humide, notamment à l'est.
Et le risque d'orage s'est légèrement effacé pendant la nuit, mais les averses persistent une bonne partie de la journée le long des frontières de l'est. Des orages éclateront encore cet après-midi sur les Alpes du Sud. La pluie est également au programme sur l'île de Beauté, où les averses pourront être localement soutenues. Ailleurs, entre les Pyrénées, l'arrière-pays provençal, les Ardennes et la Lorraine, la journée sera partagée entre des éclaircies, mais aussi des averses qui pourraient tourner à l'orage, en particulier en Bourgogne. Et le soleil, me direz-vous, il y en aura quand même quelques poches lumineuses. Sur les régions de l'ouest, les éclaircies seront plus franches. Le soleil s'imposera assez largement entre les Flandres, la Bretagne et le bassin aquitain, après dissipation des grisailles matinales.
Avec des températures toujours printanières.
Alors un petit peu avant de prendre leur envol la semaine prochaine, elles profitent d'une bonne stabilité. Vous pourrez compter sur 14 à 21 degrés sur la moitié nord, 17 à 24 au sud. Il fera 22 degrés à Cahors, 20 degrés à Paris, Ajaccio ou Limoges, 18 degrés à Rosay-en-Brie, comme à Espalion, en Aveyron, mais 16 degrés à Sainte-Marie-aux-Mines et 14 à Dunkerque.
Merci à vous Stéphanie Fromentin. 8h18, Géopolitique.